C'est le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un gouvernement dans l'après-midi, cette fois c'est fait. La fin du suspense annoncé par l'Élysée ce matin. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont enfin bouclé leur casting. Et le travail va pouvoir commencer pour les nouveaux ministres. On verra, Nicolas, ce que votre invité en attend.
Oui, c'est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, au micro d'Inter dans une grosse vingtaine de minutes. Avec toutes vos questions, amis auditeurs, 01 45 24 7000.
Docteur Lib et nos données personnelles, elles ne sont pas protégées de bout en bout, comme le garantit la plateforme. Révélation du service investigation de Radio France à suivre. Dans ce journal aussi, des voitures sans ABS, sans airbag et sans normes environnementales en Russie. Conséquence des sanctions internationales. Le navigateur Jean Le Cam, qui teste la voile du futur pour rendre les cargos moins polluants, on hissera haut avec lui. On fera la fête avec nos voisins, enfin il faut voir. Et nous serons à Cannes devant le dernier film de James Gray en compétition officielle.
France Inter.
Ce sera donc pour aujourd'hui, cet après-midi, sur le perron de l'Élysée, l'annonce du gouvernement d'Elisabeth Borne, 4 jours après sa nomination à Matignon et presque un mois après la réélection d'Emmanuel Macron. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Florence.
On peut dire que le président a pris tout son temps.
Ben oui, 26 jours pour annoncer la sélection du nouveau 15 tricolore. C'est un record sous la 5e. Je dis 15, mais personne ne connaît encore précisément le nombre de ministres qui seront nommés. Ça va être, comme à chaque début de mandat, de la haute couture, des équilibres politiques, géographique, générationnel et paritaire à respecter. Une certitude, l'ambition environnementale avec Elisabeth Borne qui sera flanquée de 2 ministres en charge de la planification écologique. Et certainement beaucoup de changements puisque la première ministre incarne la continuité. Il faut du nouveau dans l'équipe. Nouveau, le mot que répète en permanence Emmanuel Macron à chaque fois qu'il parle de ce deuxième quinquennat sans que ça ne se voit encore. Du nouveau et des pros pour piloter le pays par gros temps social. Il était temps, on le disait. Emmanuel Macron a étiré le calendrier au maximum pour mener une campagne législative éclair, mais aussi pour laisser à la haute autorité le temps d'éplucher tous les patrimoines, pas le droit à l'erreur sur l'exemplarité.
26 jours pour un casting et ce ne sera pas le gouvernement définitif, Yaël.
Non, ce n'est qu'une première équipe, celle qui sera d'ailleurs soumise dès lundi à un devoir de réserve pendant le temps de campagne officielle des législatives. Donc c'était quand même plus opportun pour les Français de découvrir leur ministre avant qu'ils ne soient obligés de se taire sur leur propre feuille de route. Et puis ça devenait un angle d'attaque pour les oppositions. Des ministres qui seront, comme Elisabeth Borne, en période d'essai. Pour rester, après le 19 juin, il faudra gagner sa circonscription. Et après le 19, et si la majorité sortante l'emporte, alors le président pourra largement compléter son Rubik's Cube gouvernemental avec d'autres LR en déshérence ou des dissidents de la NUP.
En sachant qu'il y a des urgences à gérer tout de suite, Yaël.
Le temps était suspendu, mais les dossiers chauds s'accumulent. Inflation galopante et donc paquet de mesures pour le pouvoir d'achat. Budget rectificatif de 10 à 15 milliards d'euros. La sécheresse et ses conséquences. Les retraites. Quelle nouvelle méthode pour cette mère des batailles.
Au bord de la crise de nerfs, merci Yaël Gauz. Les ministrables seront donc fixés dans les toutes prochaines heures après quelques erreurs de timing, preuve d'une ambiance fébrile dans les ministères. Ainsi, Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation avait fait venir expressément une chorale d'adolescents de Poitiers hier pour une passation de pouvoir qui n'a pas eu lieu. Récit signé Noémie Bonin.
Ils sont partis dans l'urgence hier matin de Poitiers, une 30aine de jeunes accompagnés par 8 adultes. Il en a pour environ 3000 euros de billets de train financés par le rectorat, direction le ministère de l'Éducation nationale à Paris. Arrivé en cours de journée, le groupe ACAD au cœur n'a pas d'informations précises sur l'horaire de la passation de pouvoir et donc de leur prestation. Est-ce le soir même ou le lendemain matin? En attendant, les adolescents en profitent, ils visitent les locaux, échangent avec Jean-Michel Blanquer en visioconférence puisque lui est dans le Loiret pour la campagne des législatives. Le ministre les a invités comme il l'a fait plusieurs fois pour d'autres formations musicales, précise son entourage. En fin de journée, les jeunes offrent un petit concert aux agents présents. Une auberge de jeunesse est pré-réservée à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, pour la nuit. Mais finalement, changement de programme, tout le monde repart vers Poitiers dans la soirée, sans donc avoir chanté pour la passation de pouvoir.
Noémie Bonin de France Info, et fera-t-il partie de ce nouveau gouvernement autour de la table du premier conseil des ministres lundi? Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée et sommé de sortir de l'ambiguïté, a fini par clarifier sa position hier. Il quitte le parti dans lequel il ne se reconnaît plus, dit-il. Les Républicains, dans la foulée, ont décidé d'investir un autre candidat, Julien Martinez, dans sa circonscription de l'Ain. Candidature à déposer avant ce soir, 18h, pour participer au premier tour des législatives.
Il est 8h05, un premier cas suspect de variole du singe détecté en France, en région parisienne.
Ce virus bien connu en Afrique n'est généralement pas mortel pour l'homme et et se guérit de lui-même. Fièvre, douleurs musculaires, irruptions cutanées, voilà pour les symptômes. La transmission se ferait par relation sexuelle. Une trentaine de cas avérés sont confirmés en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Et puisqu'on parle de santé, il est un site incontournable en France. C'est Doctolib, 50 millions d'utilisateurs. Mais quid de la confidentialité de nos données médicales? Avec nous Géraldine Allot de la cellule investigation de Radio France. Bonjour.
Bonjour.
Doctolib, Géraldine, nous garantit le chiffrement de nos données de bout en bout. Ce qui veut dire que théoriquement, personne ne peut avoir accès à nos prises de rendez-vous, informations sensibles. Or, vous avez enquêté et vous nous révélez ce matin qu'il y a des trous dans la confidentialité.
Oui, alerté par plusieurs spécialistes en protection des données, nous avons effectué un test pour voir si les informations médicales qu'on renseigne sur Doctolib sont entièrement chiffrées, donc protégées. Ce test, nous l'avons fait avec Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net. Nous nous sommes connectés à notre compte Doctolib et nous avons inspecté le code du site, en quelque sorte l'arrière-boutique, avec un outil qu'on appelle « débogueur ».
Bah en fait, on voit les différents rendez-vous. Donc là, il y a data confirmed, ça veut dire rendez-vous confirmé. Et il y a 4 rendez-vous confirmés. Et on voit que ces données, on les a pas reçues chiffrées. Donc ça veut dire que Doctolib lui-même les a en clair, ces informations. C'est pas chiffré de bout en bout. C'est pas le professionnel qui seul sait que vous avez rendez-vous avec lui. Doctolib le sait aussi.
Les informations qui ne sont pas chiffrées de bout en bout sont les suivantes. Nom et prénom du patient, heure et date du rendez-vous, nom et spécialité du médecin et même le motif de la consultation. Or, ces données racontent quelque chose sur notre état de santé et devraient rester confidentielles, explique Benjamin Sontag.
Si vous allez chez un oncologue et que 2 semaines après vous retournez chez cet oncologue, probablement il a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Si vous allez régulièrement chez un psychanalyste, probablement vous avez un petit problème psychologique. Donc si les données de résultats sont chiffrées, les agendas et les rendez-vous ne le sont pas, et c'est une information qui déjà est une information médicale confidentielle.
Et que répond Doctolib, Géraldine ?
Alors Doctolib reconnaît qu'effectivement, un nombre restreint de ses salariés peut avoir accès à nos données de rendez-vous. Cet accès est indispensable, nous dit-on, pour que la plateforme puisse envoyer des SMS ou des emails de rappel. Il n'empêche que d'après des avocats spécialisés, le risque que ces informations médicales fuitent existe, d'autant plus que les données de santé se revendent à prix d'or sur Internet.
Le risque principal étant de se voir inondé de publicités ciblées sur nos problèmes de santé. Merci Géraldine Allot. Votre enquête est à lire en longueur sur franceinter.fr. Aux États-Unis, c'est le droit à l'avortement qui est en péril, menacé par la Cour suprême et par les États les plus conservateurs. L'Oklahoma, hier soir, a voté l'interdiction de l'avortement dès la fécondation. Les associations de défense de l'IVG prévoient déjà des recours en justice. 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, ça c'est ce que le Congrès américain a débloqué hier, alors que les Russes renforcent leur emprise sur le Donbass. Et dans le sud du pays, le président Zelensky parle de l'enfer du Donbass complètement détruit, mais ne s'étend pas sur la reddition des soldats d'Azovstal. 1700 se seraient rendus aux Russes depuis lundi, selon Moscou, qui montre des images de ces hommes hagards à la sortie des sous-sols de l'usine. Pendant ce temps-là, en Russie, les sanctions internationales commencent à peser sur certains secteurs. L'industrie automobile, par exemple, est totalement paralysé et le gouvernement, pour relancer la production, vient de faire une croix sur toute une série de normes, Sylvain Tronchet, qui vont ramener les voitures russes plus de 30 ans en arrière.
Actuellement, toutes les usines automobiles de Russie sont à l'arrêt en raison de la pénurie de composants. De nombreux équipements électroniques, notamment, ne sont plus livrés dans le pays. Quand c'est une caméra de recul, on peut toujours sortir des modèles qui n'en sont pas équipés, explique un professionnel, mais quand ce sont les capteurs de freinage ABS, c'est plus gênant. Le gouvernement russe, qui vient de récupérer la gestion d'Avtovaz, le constructeur des Lada que Renault lui a cédé et ses 45 000 salariés, doit donc trouver des solutions. Il vient de publier un décret qui autorise la production de voitures en Russie sans système de frein ABS, sans airbag et autres équipements de sécurité. Une décision lourde de conséquences pour l'expert du marché automobile russe, Alexandre Pikulenko.
C'est une grande tragédie pour ceux qui vont acheter ces voitures. Le gouvernement autorise la fabrication de voitures sans système de sécurité. Nous avons déjà trop d'accidents mortels sur nos routes. Et on pourrait en avoir 2 ou 3 000 de plus parce que vous avez des voitures sans ABS. Rien ne peut justifier une telle décision.
Le décret du gouvernement russe annule également les normes anti-pollution européennes qui s'imposaient dans le pays jusque-là. On pourra donc produire en Russie des voitures qui seront aux normes d'émissions qui avaient cours en 1988. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et encore une mauvaise nouvelle pour EDF. Le groupe annonce un nouveau retard d'un an sur le chantier de ses EPR britanniques à Hinkley Point, mise en service repoussée à juin 2026. En France, après 11 ans de retard, l'EPR de Flamanville doit commencer à tourner en 2023. Côté énergie propre maintenant, si les cargos marchaient au vent plutôt qu'au gasoil à Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique imaginent une voile calibrée pour les cargos du futur qui permettrait de réduire leurs émissions de CO2 de 35%. Cette voile spéciale, appelée Solid Sail, elle est testée à petite échelle par Jean Le Cam, le navigateur consultant du projet. Hélène Roussel a embarqué avec lui.
Pas de tissu, mais des panneaux rigides en fibre de verre et de carbone. Une voile pliable comme un accordéon ou un store. Pas beaucoup de vent sur l'eau, mais pourtant...
Là, c'est parfait, hein, là, on voyait bien. Hein.
À la barre, Jean Le Cam.
C'est tout l'intérêt de ces essais, d'être dans le concret, dans le réel.
En vrai, cette voile Solid Sail fait plus de 1000 mètres carrés, pèse 6 tonnes. Ici, sur ce voilier de régate, elle est 50 fois plus petite. Mais l'œil du skipper est précieux, raconte Nicolas Bivin, ingénieur au chantier.
La marine de commerce et la course au large ont quand même au moins un point commun, c'est qu'il faut que les systèmes soient robustes et utilisable facilement. Les gens ont un œil à ce niveau-là qui est assez incroyable.
Une voile grandeur nature hissée sur le port de Saint-Nazaire avec en plus le balestron orientable à 360 degrés et le mât de 80 mètres pivotant. Et tout est automatisé, il suffit d'appuyer sur deux boutons.
Les armateurs ont besoin de solutions simples pour que des gens pas forcément formés puissent s'en servir en toute sécurité avec des coûts de maintenance raisonnables.
Paquebot de croisière, cargo ou même pétrolier, les chantiers n'excluent rien. Seul bémol, le système est adapté pour des bateaux de 200 mètres, pas beaucoup plus. Mais pour Jean Le Cam, c'est retour vers le futur.
Tout ce qui est énergie fossile devient de plus en plus rare, de plus en plus cher. Donc quoi de plus naturel que de travailler sur le vent dans les voiles? Christophe Colomb l'avait bien compris.
Les chantiers qui ont investi 10 millions d'euros espèrent voir leur premier paquebot à voile d'ici 3 ans.
Hélène Roussel, France Bleu Atlantique. Drame de la mer hier à Plogoff dans le Finistère. La moitié d'une famille emportée par une vague alors qu'elle se promenait sur une digue. Les parents et l'un de leurs enfants n'ont pas pu être réanimés par les secouristes. 38 jours de chaleur sans pluie en France et un froid hivernal sous les tropiques. Dans la série, il n'y a plus de saison. Le sud du Brésil, confronté à une vague de froid inhabituelle. 1 degré dans la capitale Brasilia hier. Record battu alors que l'hiver austral n'a pas encore commencé.
France Inter, il est 8h12, la suite du journal. Florence Paracuelos.
Et chez nous, Nicolas, même si les températures commencent à baisser, la soirée sera chaude dans les cours d'immeubles et les quartiers. C'est la fête des voisins. Encore faut-il, Elliot Francombe, avoir envie de faire la fête avec ses voisins.
Et oui, ici à Aix-en-Provence, la fête des voisins, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Dans son appartement en centre-ville, Mathieu a quelques problèmes.
Il y a certains voisins qui pensent être un petit peu les chefs de la résidence. Ah, le parking est à eux. Les places même non attribuées sont autorisées pour eux.
Mathéo vit dans le même immeuble.
Avec des voisins qui ont tendance à s'éparpiller en laissant ordures, poubelles sur la cage d'escalier.
Pire encore, c'est Louise, toujours à Aix-en-Provence. Elle vit dans une maison et elle a décidé d'attaquer ses voisins en procès.
On a des chats et on a des voisins qui s'amusent à capturer nos chats et à les tuer.
Alors je vous rassure, ça n'est pas le cas pour tout le monde. Michel vit dans un lotissement où les personnes s'entraident.
On surveille nos maisons quand il y en a un qui s'absente. On se prend des petits services, exemple sortir la poubelle, des choses comme ça.
Lucas fait souvent de la pâtisserie, mais problème, il lui manque toujours un ingrédient. Alors contre une part de gâteau, il demande souvent un petit service à son voisin.
Il nous dépanne un petit peu de levure ou de sucre, ce genre de choses. C'est quelqu'un de bienveillant avec qui on a envie d'avoir des bonnes relations.
Et ce soir justement, Lucas accueille une vingtaine de voisins dans sa maison. Et il a prévu un Paris-Brest.
Voilà, restera pas au PSG. Kylian Mbappé dévoilera sa décision ce dimanche au plus tard. C'est une information de la cellule sport de Radio France. Enfin, Cannes, troisième jour du festival avec un âne hier, héros d'un film polonais en compétition officielle. Et le dernier, James Gray, loin d'Ad Astra, son précédent. Armageddon, comme son nom ne l'indique pas, est un film intimiste. Alexis de Meyer, évocation de l'adolescence du réalisateur dans le Brooklyn des années 80.
Paul Graff, collégien, farceur aux cheveux roux, aime faire le pitre en classe et embêter ses parents, tout en rêvant de devenir dessinateur de comics. Mais cet ado habitué à la mixité de son quartier new-yorkais perd toute confiance en lui lorsqu'il intègre un établissement privé géré par un certain Fred Trump. Avec cette œuvre aux accents autobiographiques, James Gray réalise l'un de ses films les plus engagés, évoquant le racisme, le mépris de classe et le libéralisme des années Reagan.
Je m'intéresse beaucoup au système capitaliste qui s'abrite selon moi derrière une démocratie de façade. Cette conviction transparaît dans chaque scène de mon film. Car mon ambition, dès le départ, était de faire un film très politique, même si parler des classes sociales aux États-Unis est quelque chose de très dangereux. Notre comportement et nos actes sont pourtant déterminés par notre classe sociale.
Après Little Odessa, Two Lovers ou encore The Lost City of Z, le cinéaste impressionne une nouvelle fois par la justesse de sa direction d'acteur. Mention spéciale à Anthony Hopkins en grand-père ultra touchant. Et puis James Gray confirme ici son grand sens du cadre. Quant à la lumière signée du maestro Darius Kondji, elle est absolument somptueuse.
Voilà, Armageddon de James Gray, aujourd'hui en compétition officielle, frère et sœur d'Arnaud Desplechin, invité d'Augustin Trapenard dans Boomerang.
Merci Florence Paracuelos. Météo, Stéphanie Fromentin.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et les averses orageuses font leur cinéma.
Et selon un plan séquence qui s'étire au réveil de la pointe bretonne au Hauts-de-France et qui va gagner l'Est en cours de journée, traversant le bassin parisien, quelques plans chargés de grêle seront accompagnés de flashs orageux qui éblouiront le ciel du nord-nord-ouest ce matin et des frontières allemandes cet après-midi. Pendant ce temps-là, le soleil tente une montée des marches par le sud. Il a une accréditation bien franche pour le sud-est, mais se trouve concurrencé par une forte couverture nuageuse des Pyrénées à l'Alsace en passant par le centre. Le vent fait sa vie hors compétition, soufflant ça et là sous les orages par rafales de 60-80 km/h, mais aussi dans le domaine de l'OTAN.
Et Mercure offre le tapis rouge aux températures.
Oui, elles explosent largement tous les records pour un mois de neige, je savais que ça vous plairait. Oui. Flirtant en général avec les 30 degrés, 27-33 degrés, ça sera la moyenne sur l'ensemble de l'Hexagone. Palme d'or de la chaleur extrême sur l'Auvergne et dans l'Est avec des pointes à 33-35 degrés. Ailleurs, on reste dans des températures excessives pour la saison, mais plus respirables. 17-20 degrés près de la Manche, 18-24 le long de la côte atlantique et de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France. Il fera 18 degrés à Pont-Aven, 34 à Strasbourg, Clermont-Ferrand et Albi, 25 degrés à Paris et 23 sur la Croisette.
Merci Stéphanie Fromentin. Il est 8h17.